Mais d'abord, on va aller rejoindre Maxime Simard, journaliste pour Kick FM, donc la radio du réseau Cogeco au Lac-Saint-Jean. Maxime, bonjour.
Bon midi, Bernard.
Alors, dites-nous où en sont les recherches là, pour retrouver les 5 motoneigistes français?
Ben, actuellement, ce qui se passe, c'est un grand déploiement, un peu comme hier, mais je dirais qu'il y a encore plus de monde, en fait. On me confirmait du côté de la Sûreté du Québec qu'on a plus d'effectifs, notamment au niveau sous-marin, en fait, parce qu'il y a plusieurs plongeurs qui sont arrivés là en début de journée, donc dans le secteur de l'embouchure de la Grande Décharge, dans le secteur où, finalement, on a retrouvé hier 2 motoneiges au fond des eaux. On a également un hélicoptère des Forces armées canadiennes qui est venu en renfort à la Sûreté du Québec. Il y a un hélicoptère également de la Sûreté du Québec qui est sur place, parce qu'on se rappellera qu'il y avait 2 hélicoptères de la SQ hier, et malheureusement, il y en a un qui s'est écrasé.
Oui.
Donc, voilà pourquoi les Forces armées canadiennes sont venues. Et il y a encore des patrouilleurs là, qui sont là à motoneige à se promener à travers les différentes îles et surtout les différents chalets, à savoir si ces personnes qu'on cherche ne seraient pas sécurisées dans ces endroits.
Oui, oui. On s'entend qu'avec le temps, les chances, les probabilités qu'on les retrouve vivants diminuent. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Les policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les plongeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Écoute, les policiers demeurent motivés, sauf que c'est certain qu'on voit le temps avancer. C'est quand même une opération qui a débuté le mardi 19h30. Les policiers qui lâchent pas, les effectifs nécessaires sont là. On nous parle pas d'abandonner de recherche encore, parce qu'il y a des gens qui me posaient la question combien de jours ça pourrait durer éventuellement si on retrouve pas ces personnes manquantes-là. Ben, la réponse, on l'a pas pour l'instant. Une chose est sûre, les policiers nous disent qu'on travaille très, très fort. Tout le monde qu'on a besoin est là sur le terrain. On est mobilisé ici au Lac-Saint-Jean et ça se voit. Là, on se promène dans secteur. Il y a de nombreux véhicules de la Sûreté du Québec, comme on n'en voit jamais ici.
D'accord.
Il y a également plusieurs enquêteurs qui sont là, plusieurs postes de commandement également.
Donc, vous allez nous faire entendre le point de vue du porte-parole de la Sûreté du Québec.
Oui, exactement. Hugues Beaulieu, avec qui j'ai parlé il y a quelques minutes, qui nous explique notamment ce dont on a besoin sous l'eau pour faire les recherches.
Présentement, il y a 3 équipes de plongeurs et de sauveteurs de la Sûreté du Québec qui sillonnent la zone où nous avons retrouvé 2 motoneiges hier. Et ça fait une 12aine de policiers. Nous sommes munis de sonars latéraux. Hein. C'est des appareils technologiques qui nous permettent d'aller voir le sol du lac pour voir des objets, s'il y en a. Également des propulseurs sous-marins qui aident les plongeurs à se diriger rapidement sur des points précis. C'est sûr que la surface est très grande, donc ça va prendre encore un certain temps. On prend en considération le débit, le courant. Si on doit aller jusqu'au barrage, c'est évident qu'on va y aller.
Maxime Simard, merci.
C'est un plaisir, Bernard.
On va maintenant parler avec Mario Cyr, qui est expert plongeur, qui a déjà participé à des recherches pour retrouver des corps. Mario Cyr, bonjour.
Ben bonjour, Bernard.
D'abord, les sonars latéraux là, dont on se sert,
oui.
Les propulseurs sous-marins, là, donnez-nous un peu plus de détails. Comment ça marche et
bon,
à quoi ça sert?
Premièrement, vraiment ce qu'on appelle les propulseurs, c'est des scooters sous-marins. Donc, on va vraiment pouvoir se déplacer sans palmer. Donc, ça marche mécaniquement. Donc, ça marche avec des batteries, ce qui nous permet de couvrir un terrain beaucoup plus vaste.
Comme des petits robots, dans le fond, qui parcourent le fond du lac, au bout de la rivière?
Ben exactement, mais on se fait tirer, on se fait tracter. Là.
Ah donc, oui, OK, je sais ce que vous voulez dire.
Oui, donc on a 2 poignées, donc
oui,
avec
avec
pour aller plus vite ou moins vite.
D'accord,
On peut se déplacer facilement comme ça. Et ce qu'on appelle vraiment des balayages latérales, donc c'est vraiment des side scanners. Donc on va voir exactement la nature du fond, ce qui pourrait nous permettre de comprendre où sont les motoneiges, mettons. Donc, lorsqu'il y a une masse, surtout métallique, une masse qui est assez puissante, donc ça va nous détecter, ça va donner des sons, ça va émettre des barres, là, en fait, contre un code-barre qui veut dire qu'il y a quelque chose vraiment dans
le fond. Il y a un objet.
Exactement.
Et là, tu sais qu'il y a un objet là, t'envoies le plongeur.
Exactement. Parce que c'est sûr que quand on couvre le fond comme ça, ça veut dire que, puis là, je ne sais pas exactement la profondeur comme telle, mais plus on va rester longtemps dans le fond, ça veut dire qu'on a de la décompression à faire. Ça dépend de la visibilité aussi, hein, parce qu'on me dit que dans ce coin-là, il n'y a quand même pas beaucoup de visibilité. Il reste que l'eau est froide aussi. Ça, c'est un facteur. Aujourd'hui, les équipements sont quand même assez sophistiqués pour bien vivre dans cette eau froide-là, de bien travailler. Mais ça reste que tout ça, c'est des facteurs qui viennent ajouter des difficultés lorsqu'on fait des recherches comme ça.
Là, vous avez déjà fait ça dans du courant comme ça, là, parce que la grande difficulté, là, d'après ce qu'on qu'on comprend, là, c'est qu'il y a beaucoup de courant et on sait qu'il y a un barrage à proximité. Là. L'eau là s'en va vers un barrage. Oui. Donc, l'eau circule, se déplace à une vitesse rapide.
Assez rapidement, oui.
Et par ailleurs, tu as le barrage pas loin, là, donc il y a un élément de sécurité très important. Oui. Là.
Donc, c'est certain qu'il faut qu'il garde une certaine... je ne sais pas comment le barrage... Parce que le barrage, des fois, on peut aussi réduire cette vitesse d'eau-là. On peut contrôler, il y a des valves. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi aujourd'hui, mettant, je dirais, le courant qui se déplace. Mais normalement, c'est assez fort. Et donc, on est obligé de garder vraiment une frontière, donc une sécurité pour ne pas trop s'approcher de ce barrage-là. Et certain que lorsqu'un corps est soumis dans l'eau, il fait comme l'eau. Ça veut dire qu'il voyage avec l'eau et ces gens-là pourraient déjà se trouver très, très proche du barrage.
Ou même de l'autre côté.
Ou de l'autre côté, ou simplement aussi pris sous la glace. Parce que ça a déjà arrivé. En tout cas, moi, dans ma vie, j'ai été chercher quand même plusieurs personnes là, sous la glace. Donc, j'en ai trouvé qui étaient dans le fond. Même, justement, une personne sur une motoneige qui était encore assise sur la motoneige. Là. C'est comme si elle n'aurait pas... comme si elle était en surface. Et on en a trouvé une aussi aux îles de la Madeleine qui menait des escoumins. Donc, qui avait collé sous la glace et la glace l'avait déporté tout le long en descendant le fleuve.
Ben voyons, des escoumins jusqu'aux îles de la Madeleine.
Jusqu'aux îles de la Madeleine, oui, oui. Donc, non, ça peut voyager. Mais là, on parle d'un lac. Là. Un lac, c'est fermé. On ne parle pas de la même chose.
Non, je comprends. Mais ce que ça dit, c'est que ça peut voyager sur une très, très longue distance.
Ça peut voyager et ça peut rester là aussi. Donc, ça dépend beaucoup de ton habillement. Ça dépend, tu sais, parce qu'on est toujours confronté à la flottabilité. Ça veut dire que l'eau, c'est un élément de mesure qui équivaut à 1. Quand on parle des liquides, donc tout dépendamment, qu'est-ce qu'on a sur le dos? Est-ce qu'on on va flotter ou est-ce qu'on va couler? Donc, tout ça fait, mais quand on est dans l'eau, on fait comme l'eau, donc on voyage avec l'eau aussi. Et c'est pour ça que ces personnes-là pourraient être très proches, mais pourraient être aussi déjà assez loin. Là.
Est-ce que tu t'habitues à retrouver un corps?
Mais oui, je pense que tu t'habitues. C'est-à-dire que je pense que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Il faut se détacher directement. Moi, j'ai toujours dit que je tombais un petit peu en transe quand j'allais chercher des corps comme ça. Ça veut dire que tu as un travail à faire. Il faut que tu le fasses parce que là, tu as la famille à côté. Tu as des gens vraiment qui
attendent,
veulent,
là, hein?
Veulent que tu retrouves le corps le plus possible. Donc, ça te met de la pression. Mais tu fais des gestes où on dirait que ton corps, ton esprit est un petit peu à côté. Donc, moi, c'est arrivé, bon, descendre dans le fond de l'eau, il y a une voiture, il y a des personnes à bord. Ça veut dire que là, tu vois tout ça, tu ouvres tes portes, tu sors tes personnes, tu les prends dans tes bras, tu les remontes à la surface. Il faut que tu en ailles en chercher d'autres parce qu'il était plusieurs dans la voiture comme telle. Donc, on dirait que tu fais tout ça de façon machinale.
Comme si tu voyais un film
d'une certaine manière. C'est difficile à expliquer. Donc c'est un peu ça, c'est un peu de tomber en transe, un peu comme voir un film. Et c'est drôle parce que souvent les gens me demandaient, tu dois passer les nuits, tu dois rêver à ça. Non, ça m'a jamais arrivé de rêver après à faire ce travail-là parce que c'est quelque chose qui est comme un peu à côté de moi, même si tu l'exécutes. Et comme c'est pour ça que je disais que pour des gens, ça se fait bien, puis pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile vraiment à travailler.
C'est comme si c'était un peu mécanique.
Oui, c'est une mécanique.
C'est un peu comme mécanique. Et en même temps, tu n'as pas le choix que d'être très, très, très précis dans tes mouvements parce qu'on s'entend que c'est dangereux. C'est dangereux, oui.
Ben oui, c'est certain parce que tu arrives que c'est quand même, encore une fois, il y a du courant, il peut arriver plein de choses. Et quand t'arrives des accidents dans l'eau, mettant en plongée dans des endroits comme ça, ce qui fait que ça va vite, hein. Je sais pas, moi, tu perds ton détendeur ou il y a de l'eau qui rentre dans ton masque. Là, on parle de gens quand même qui s'habituent, là. Les gens de la Sûreté du Québec.
Ils sont excellents. C'est les meilleurs, là.
C'est des équipes spécialisées qui passent leur temps à s'entraîner pour justement hier parce que j'ai su tantôt là je connais quand même des gens là, à un moment donné c'est un petit monde aussi la plongée là puis quand ils sont partis pour aller au lac Saint-Jean, ils s'organisaient pour aller faire de la plongée pour une pratique à un autre endroit là. Tu sais, donc ils font beaucoup d'entraînement
dans tous les milieux, c'est ça, ils s'habituent là. Il faut qu'ils soient capables de plonger 12 mois par année eux autres avec le climat qu'on a là.
Exactement, avec aucune visibilité souvent même quand il y a de la visibilité, on va mettre on met du papier d'aluminium à l'intérieur du masque pour pas voir justement pour pratiquer parce que tout se fait aussi à tentant, tu sais, donc en essayant de voir un peu où on est rendu puis couvrir le terrain parce que c'est qui est important comme ça, c'est de faire ce qu'on appelle des transects pour être certain qu'on n'oublie pas de coin
faire. De quadriller ton territoire,
c'est ça. Ben, ce sont des spécialistes à faire ça. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'avec les scanners, avec les scooters, comme on disait, ben, ça permet de couvrir beaucoup plus de fonds et d'au moins déterminer, ben, OK, on les a pas trouvés, mais on sait qu'ils sont pas dans ce coin-là, donc on va changer, on va changer d'endroit. Et les corps peuvent continuer à se déplacer aussi, hein.
C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr, t'as du courant, là.
Oui.
L'endroit où t'es allé plonger, que tu considérais, t'as coché cette case-là. Ouais. À cause du courant, à un moment donné...
C'est pour ça que c'est plus difficile. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà cherché des personnes dont on n'a jamais trouvé. Et aussi, je suis allé chercher des personnes qui étaient à l'intérieur de bateaux. Donc, c'est une structure. Donc là, c'est beaucoup plus facile à trouver. Ou à l'intérieur d'une voiture. Donc, c'est certain que si la personne tombe avec sa voiture à l'eau et qu'elle est encore à l'intérieur de la voiture, bien là, l'échange de la retrouver est beaucoup plus facile. Là,
ils ont trouvé deux motoneiges à date.
Oui,
là. Ça,
exact.
C'est les informations qu'on a. Fait qu'on présume qu'il y a trois autres motoneiges.
Oui.
On s'entend qu'ils n'étaient pas bien, bien loin l'un de l'autre.
Moi, d'après moi.
Ils étaient à la file indienne, là. Fait que là, tu te dis, il faut qu'ils soient... pas bien, bien loin.
Oui, non. Pour ce que c'est qu'il y ait des motoneiges, c'est certain que, d'après moi, on va trouver les trois autres dans le même secteur.
Ouais.
Malgré que ça peut quand même avancer un peu sous l'eau, ça veut dire que le courant avance. Puis là, ça reste encore à savoir au niveau de la profondeur, hein, parce que si c'est très peu profond, mais ça touche le fond, donc ça va arrêter assez rapidement. Mais si c'est une profondeur, je ne sais pas, je dirais de 80 ou de 100 pieds, mais ça peut bouger quand même là, sur facilement peut-être une centaine de mètres. Là.
Donc, est-ce que ce serait utile d'avoir des balises à bord des motoneiges. C'est un peu comme on en a pour les avions. Je comprends que c'est pas la même chose,
non,
là, mais
pas
compte
la même
tenu
chose.
Du fait qu'on a un très, très vaste territoire et c'est une industrie en pleine expansion. Je vous le disais hier, là, c'est 30 000 touristes français là, qui viennent chaque hiver. Là. C'est du monde à la messe,
oui,
ça.
Non,
là.
C'est beaucoup de monde. Ouais.
Je pose la question parce que ça pourrait nous aider à les retrouver, bien entendu.
Ben, c'est là, certain qu'on pourrait au moins retrouver les motoneiges assez rapidement. Puis on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que je pense que quand on garde les sentiers, ils sont balisés et ils sont sécuritaires. Mais il y a beaucoup de sentiers qui mènent à des lacs. Je pense que là, c'était pas le cas parce que ça restait que je pense qu'on a passé complètement à côté de sentiers balisés. Mais oui, ça pourrait être une idée. Là. Je suis pas très connaisseur dans ça, mais c'est quelque chose qui pourrait aider.
C'est un flash qu'on a eu, une question qu'on voulait vous poser. Bon, écoutez, on va espérer à tout le moins qu'ils vont finir par les retrouver, même si on comprend bien que c'est des conditions qui sont très, très difficiles. Et le courant étant très fort, il aurait pu emporter déjà sur une très longue distance les dépouilles.
Oui.
Mais bon, ne présumons pas qu'ils sont décédés. Il y a encore un certain espoir qu'on pourrait les retrouver peut-être autour, là, même si cet espoir s'amenuise avec les heures. Je vous rappelle que je parlais avec Mario Cyr, un plongeur de combien d'années d'expérience?
Ben, ça fait 44 ans hein, que je fais de la plongée. Donc,
vous savez de quoi vous parlez.
Puis ma spécialité, la plongée sous glace, ma plongée. Donc, 40 fois l'Arctique, Antarctique, Islande, Groenland, Alaska, Russie. Donc, beaucoup d'endroits où l'eau est glacée, mettons.
On vient tout juste de m'apporter une dépêche. Là, l'identité de deux des touristes disparus est révélée. Il s'agirait de Jean-René Dumoulin, 24 ans, et Gilles-Claude, 58 ans. Donc, voilà. Et j'ai lu quelque part que l'une des cinq victimes était le papa de skieur de fond d'élite.
Oui, oui.
C'est M. Claude, Gilles-Claude. Et ses deux fils, qui sont donc des skieurs français, ont skié pour lui aujourd'hui et l'un des deux a fait son meilleur résultat à vie. Il a dit, j'ai skié pour mon père aujourd'hui.
Ouais.
Alors voilà, on espère qu'ils vont retrouver donc les corps. Merci encore, ça a été un grand, grand plaisir, mon cher Mario Cyr.
Ça me fait plaisir.
Placé comme ça.
Ça me fait plaisir.
Va s'arrêter puis on va parler au retour de matière recyclable là, parce que là, qu'est-ce que vous voulez, on recycle, on aime ça recycler, enfin on aime ça. Oui, je pense qu'on s'habitue. Mais là, on est en train de se demander, ça vaut-il la peine de recycler parce que là, tu as des sites qui sont supposés trier nos matières recyclables qui sont sur le point de fermer.